Roche, soyez le bienvenu dans ce lieu.
Bien sûr, j'accueille aussi ceux qui sont les habitués. Et on est tellement heureux de se retrouver, de retrouver aussi ceux qui sont partis en vacances et qui reviennent, n'est-ce pas Pierre, entre autres. Mais voilà, c'est une grâce de pouvoir ensemble être dans la communion fraternelle et puis de pouvoir ensemble servir le Seigneur. Je vais demander à Pierre si tu veux bien afficher l'image que j'ai préparée, qui est vraiment la thématique pour cette rentrée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Très simple, sauver pour une chose, sauver pour servir. Et on a besoin de se laisser pénétrer par ce message. Ce matin, ça ne va être qu'une introduction. Par la suite, on aura l'occasion de revenir sur cela, de quelle manière doit être notre service, doit être sérieux, doit être agréable, dans l'unité, un service de valeur, un service par le Saint-Esprit. Mais ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur la question « Pourquoi servir ?» Sauver pour servir, c'est bien. Ceux qui connaissent un petit peu la devise des pompiers de Paris, c'est ça qui m'a fait penser à ça, c'est sauver ou périr. C'est heureusement qu'ils ont une devise comme ça, parce que ça les incite à être empressés dans leur travail. Mais pour nous, c'est quand même beaucoup plus positif. Sauver pour servir. Pour être au service. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, le mot servir, il est traduit par deux mots grecs. Il y en a un qui est diakoneo, ça a donné le mot diacre. Ça veut dire assister, rendre service, remplir une fonction, être un domestique. Donc ça veut dire les choses bien pratiques de la vie. C'est un service déjà. Mais il y a aussi un autre mot qui est plus difficile à entendre, douleo. Alors excusez-moi la prononciation, je ne parle pas grec couramment. Ça veut dire faire un service, se mettre au service d'un maître. Et littéralement, le plus près, ça veut dire être un esclave. Et c'est ça qu'on n'aime pas beaucoup entendre. Mais pourtant, quand Dieu parle de service, il parle des deux choses à la fois. Être au service d'une cause, de quelque chose, faire remplir une tâche, mais surtout se mettre au service de quelqu'un. Avoir quelqu'un pour maître. Et c'est combien important de réaliser que nous sommes sauvés. Oui, c'est super, on a notre place dans le ciel, mais on est sauvés et sur la terre, ça se manifeste par le service que l'on va rendre au Seigneur. Sauver pour servir. Servir, ce n'est pas juste donc faire quelque chose d'utile pour Dieu, c'est déjà bien, mais c'est mettre sa vie tout entière au service de Dieu. C'est dire cette prière, tout ce que tu me demanderas, quel que soit ce que ce sera, Seigneur, je le ferai. Est-ce que vous seriez prêt à écrire, à signer en bas d'une feuille blanche et à laisser Dieu écrire le reste? Ça nous engage, hein? Imaginez que vous fassiez un chèque en blanc. Ça, on réfléchit toujours. Qu'est-ce qui va se passer avec ce chèque? Est-ce qu'il va être dans de bonnes mains? Mais là, c'est dans les mains du Seigneur qu'on met notre vie. En bas de notre vie, on signe, Seigneur, je veux faire tout ce que tu me demanderas parce que je crois que tu es un bon maître. Pourquoi servir? Parce que c'est l'enseignement des Écritures. Parce que c'est pour suivre l'exemple de Jésus. Parce que c'est un moyen de s'épanouir. Trois raisons qui nous montrent que c'est tellement bénissant que de se mettre au service du Seigneur. Alors la première chose que j'ai citée, c'est justement parce que c'est l'enseignement des Écritures. Le service, il est présent dans toute la parole de Dieu. On peut lire un premier verset dans Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20, pour ceux qui connaissent bien la Bible, c'est l'endroit où Moïse reçoit les 10 commandements. Exode chapitre 20, le verset 4. Il est question du deuxième commandement. 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, plus tous les autres qui comportent la loi. Mais le deuxième déjà nous dit ceci au verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Sous-entendu, moi, l'Éternel ton Dieu, je désire que tu me serves à moi. Vous êtes d'accord? J'extrapole pas trop la parole de Dieu. Mais c'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Déjà dans les 10 commandements, nous voyons que Dieu réclame que nous puissions le servir lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est le premier commandement, devant ma face. Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui mérite que nous puissions consacrer toute notre vie. Quand on consacre notre vie à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber toutes les gens que nous aimons, qu'on s'intéresse plus aux choses d'ici-bas, mais au contraire, on va le faire d'une manière tellement mieux, tellement plus indiquée et efficace, parce que le Saint-Esprit va nous conduire dans toutes les choses essentielles de notre vie. Alors que si nous les faisons centrer sur nous, eh bien nous allons passer à côté de la moitié des choses. Est-ce que vous aimeriez savoir une phrase qui résume ce que Dieu vous demande? Il y en a une qui existe dans le Deutéronome, on est toujours dans les premiers livres de la Bible, Deutéronome chapitre 10 et le verset 12. Ça résume un petit peu tout ce que Dieu a demandé au travers de toute la loi. Et la loi, est quand même, ça fait 5 livres de la Bible, je ne sais pas si vous les connaissez tous, le Lévitique en particulier, qui est un petit peu difficile, mais il y a ce verset-là qui résume ce que Dieu nous demande, Deutéronome 10, verset 12. Justement, c'est ce qu'on est en train de parler. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes tes voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » S'il y a bien une chose que l'Éternel demande, c'est que nous l'aimions et que nous le servions de tout notre cœur et de toute notre âme. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu nous demande, parce que lui, quand il nous aime, il le fait entièrement, alors il nous demande d'être à son image, de l'aimer entièrement et de le servir entièrement, avec tout ce que nous sommes. Imaginez que vous allez voir le docteur, et que vous le trouvez à moitié convaincu qu'il faut qu'il vous opère. Pourtant, c'est une opération grave, peut-être une opération cardiaque, je ne sais. Mais vous parlez avec lui et il vous met plus de doutes que de confiance. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous n'allez pas forcément vous laisser opérer. Vous allez chercher un docteur qui est entier dans ce qu'il fait. Parce que c'est important d'être entier dans ce que nous faisons. Et Dieu nous demande la même chose. À Josué, qui était en train d'avoir cette position sur Israël alors que tout le pays a été conquis et qu'il voyait qu'il approchait la fin de sa vie, il est en train de placer le peuple tout entier devant un choix important. Josué 24:15, je le lis pour vous. « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. » Mais vous connaissez la phrase qu'il a dite. Lui, il avait choisi déjà. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui « moi et ma maison », c'est ma famille, hein, « nous servirons l'Éternel. » « Moi et ma famille, peu importe les circonstances, peu importe ce que Dieu va me demander, peu importe les difficultés de la vie, peu importe si le monde entier se dresse contre moi, David disait « même s'il y a une armée entière qui se dresse contre moi, je n'aurai aucun mal, je n'aurai pas peur. » C'est sûr que si on voyait une armée entière sur la place Sainte-Blanche, bon, ça nous ferait réfléchir quand même un petit peu. Mais quand on a la confiance dans le Seigneur, peu importe ce qui se passe, s'il nous demande d'aller dans ce sens et que le monde entier va dans l'autre sens, eh bien, nous, on veut continuer de marcher avec lui. Parce que c'est le choix qui nous appelle. Et ce matin, il y a un choix. Ce matin, avant de sortir de ce lieu, vous allez être tous, personnellement, chacun, devant un choix de dire « Seigneur, je veux te servir ou pas ». Dieu n'oblige personne. Mais Dieu nous incite fortement. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal. Mais Dieu nous dit, choisis le bien. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis de mettre ta vie au service du Seigneur. J'ai commencé par l'Ancien Testament. Je finis justement le dernier livre de l'Ancien Testament dans Malachie. Malachie, juste avant donc le Nouveau Testament. Avant que Dieu, pendant plusieurs siècles, se taise, il y a eu un silence radio de la part du ciel, plus de prophètes pendant des siècles, plusieurs siècles d'affilée. Pourtant, Malachie a dit cette parole. Et je crois que si Dieu a permis que Malachie dise cette parole à ce moment-là, avant qu'il y ait ces 4 siècles de silence, c'est pour une bonne raison. C'est pour marquer quelque chose d'important. Malachie, chapitre 3, verset 18. Voilà comment on finit quasiment l'Ancien Testament. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le fait de servir, c'est un signe de reconnaissance. Et la Bible fait un parallèle entre la personne qui est juste et la personne qui sert. ça ne veut pas dire qu'on est juste par ce concert. On sait très bien que ce n'est pas par nos œuvres que l'on est sauvé, mais l'on est sauvé pour servir. Donc, quand le Seigneur a sauvé nos vies, on est obligé de manifester la justice qu'il nous a donnée en pratiquant la justice. On reçoit dans notre cœur la justification, alors on pratique la justice sur la terre. Et il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur quand on fait cela, quand on prend cette décision, quand on dit « Seigneur, oui, je te demande pardon parce que je suis un être pécheur. » Le Seigneur nous pardonne, mais il y a quelque chose, un élan dans notre cœur qui vient habiter et qui ne s'éteint pas. Regardez maintenant dans le Nouveau Testament, un texte, on ne va pas en lire plusieurs, un Thessalonicien d'ailleurs, chapitre 1er, verset 9, qui nous montre justement que c'est un résultat, une conséquence. Le fait de servir, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas juste parce que le pasteur dit qu'il faut servir que je sers. Mais ça doit venir du profond de notre cœur, comme le dit Paul aux Thessaloniciens, au verset 9 du chapitre 1er. Car on raconte à notre sujet quels accès nous avons eus auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment ? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On raconte à notre sujet comment vous vous êtes convertis à Dieu. Il y a eu la conversion, vous avez fait le pas de vous convertir, alors résultat, conséquence immédiate. On abandonne les idoles, on abandonne tout ce qui prend la place de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc non, Seigneur, j'abandonne tout cela. J'abandonne tout ce qui me tenait en arrière. J'abandonne tout ce qui me dominait. Et je livre ma vie entre les mains du Seigneur. Et je désire servir le Dieu vivant et vrai. Quelqu'un qui a compris ce que c'est vraiment la foi, quelqu'un qui vit la foi jour après jour, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Alors, c'est sûr, il y a des multiples façons de servir Dieu. Ce n'est pas forcément que dans l'Église que l'on sert. Mais ça fait partie, l'Église fait partie de l'emploi que Dieu permet de faire pour servir. Mais il y a tellement de façons de faire. Et le plus important, c'est pas de savoir si dans l'Église j'ai ma place. Le plus important, c'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse et où tu veux que je le fasse. Il y avait un enfant qui a grandi donc chez ses parents et puis qui arrivait à l'université pour sa première année. Et ses parents lui ont donné une Bible. Et ils lui ont dit, mon enfant, vraiment, lis la Bible. Quand il y a des moments difficiles, lis la Bible. Ça va être une aide précieuse pour toi. Et l'enfant, il écoutait, mais il avait en tête qu'une fois qu'il serait tranquille dans son appart, eh ben, il ferait ce qu'il veut. Alors, à un moment donné, donc la scolarité se passe. Et puis, il commence à avoir des soucis financiers. Et il commence à envoyer des lettres à ses parents en leur demandant de l'argent. Et ses parents lui répètent inlassablement, « Mais mon enfant, lis la parole de Dieu, tu vas voir, ça va t'aider vraiment. » Et il leur dit, « Oui, je lis la Bible, c'est pas un problème, mais j'ai besoin d'argent, moi, je veux quelque chose de pratique. » Et puis, donc, à la fin du semestre, il revient, c'était la pause, les vacances, il revient chez ses parents, et ses parents lui reprochent, « Mon fils, tu n'as jamais ouvert ta parole. » Et il leur dit, « Mais si, je l'ai fait, comment vous savez que je l'ai pas fait ? Je l'ai fait, si. » Tu as jamais ouvert ta parole, parce que dans les versets qu'on te citait, aux pages où les versets indiqués qu'on te citait, il y avait des billets de 20 euros ou de 10 euros. Donc tu n'as jamais ouvert la Bible. Et là, il a eu la bouche fermée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on mette des billets dans la Bible pour qu'on lise la parole? J'espère que vous êtes bien plus mature que ça et que vous avez compris que la parole de Dieu, c'est un trésor en elle-même. Ce sont les versets qui sont un trésor et qui nous permettent de nous enrichir personnellement dans notre cœur. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, de repasser ces textes. Ça nous montre déjà que c'est la volonté de Dieu. Le service, c'est la volonté de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, quelles que soient les circonstances. Il y a des moments, ils étaient dans des positions élevées. Il y a des moments, ils étaient au fond d'un trou dans la prison. Mais ils servaient l'Éternel. Et c'est l'image que nous devons avoir pour chacune de nos vies. L'Écriture tout entière nous exhorte à servir Dieu. Mais servir, c'est aussi suivre l'exemple de Jésus. Vous connaissez ce texte, mais on va le lire quand même dans Matthieu, chapitre 20, verset 25. Cette parole qui sort de la bouche de Jésus même et qui nous montre que le service à ses yeux était quelque chose d'important. Matthieu, chapitre 20, verset 25. Pourtant, c'est pas un contexte hyper favorable, puisque juste avant, il y a deux disciples qui ont fait une prière particulière. Seigneur, on voudrait être à ta droite et à ta gauche, dans le ciel. Seigneur, nous on veut la première place dans le ciel. Et vous savez ce que Jésus va répondre? Alors que tous les autres disciples sont là, ils sont indignés, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter cela? Quels orgueilleux, quels hypocrites. On imagine tout ce qu'ils ont pensé. Regardez comment Jésus règle la situation. Matthieu 20, 25. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être parmi vous le plus grand, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Est-ce que Jésus aurait pu demander qu'on le serve? Franchement, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, est-ce qu'il aurait pu demander qu'on le serve? Tout à fait. Et il avait parfaitement le droit, personne n'aurait pu rien lui reprocher. Mais il a dit, je suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Si Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est saint, qui est parfait, qui est sans péché, qui a donné sa vie sur la croix, mais qui est ressuscité, si lui, il dit, je suis venu pour servir, est-ce que nous, on peut dire, moi, je suis exempt du service, exempté? Non, ça fonctionne pas ça avec le Seigneur. Si le Saint d'Israël, celui qui revient bientôt nous chercher en gloire, le lion de Juda, celui qui va venir régler le problème du diable sur la terre, si lui, il a dit « je suis venu pour servir », alors est-ce que nous pouvons dire « moi, ça me concerne pas ». Non, Seigneur, je veux être à ton image, je veux être ton disciple, je veux imiter ton exemple. Et vous savez que son service, ça a été la bénédiction des personnes qui l'ont rencontré. Mais ça a été notre bénédiction parce que son service lui demandait d'aller jusqu'à la croix. Heureusement que Dieu ne nous demande pas ce genre de service. Ça, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu demande à chacun quelque chose de particulier, de précis. Et combien c'est intéressant dans ce début de rentrée 2018 de dire « Seigneur, je veux me mettre à genoux et je veux savoir qu'est-ce que tu me demandes. De quelle manière tu veux que je te serve ? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie pour toi ? Parce que je crois que tu vas te servir de moi. » Il y avait cette petite histoire qui est racontée, je sais plus c'est dans quel endroit, mais c'était près de la mer. Il y avait des pélicans qui avaient l'habitude de plonger pour attraper leur poisson, donc de chasser le poisson et se nourrissaient comme ça. Et puis, il y a eu un port qui s'est installé à côté, des pêcheurs qui partaient à la pêche, donc. Et une fois qu'ils vendaient toute leur cargaison, ils évidaient le poisson et ils mettaient tous les déchets de poisson sur un coin de la plage, dans un coin isolé quand même. Et les pélicans avaient pris la bonne habitude d'aller manger là-bas. Et ils avaient totalement perdu l'habitude, au bout de plusieurs années, ils avaient totalement perdu l'habitude de chasser. Et ils étaient tous bien portants, on va dire. Ils avaient tous un bon petit estomac, et donc ils se contentaient de venir, au moment où les gens vidaient cela, de venir manger à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'il s'est passé, c'est que lors de traitement des déchets, ils ont trouvé un moyen d'utiliser ces autres déchets-là. Et de les faire disparaître. Et donc, l'approvisionnement que les pélicans ils avaient pendant des années et des années a disparu du jour au lendemain. Et ils se sont retrouvés là, et ils n'ont pas retrouvé les habitudes de chasse. Ils attendaient que quelqu'un vienne leur donner à manger. Et il y en a plusieurs qui ont commencé à dépérir, qui ont commencé à voir les os. Et puis, il y en a plusieurs même qui sont morts, parce qu'ils n'ont pas repris l'habitude de la chasse. Alors les spécialistes des oiseaux qui ont vu la situation, ils ont dit le seul moyen qu'on règle ça, vous savez c'est quoi? C'est d'amener des pélicans jeunes qui viennent dans un endroit sauvage, qui ont l'habitude de chasser, et de les amener dans ce lieu-là, et qui montrent à ceux qui se sont un petit peu encroûtés comment il faut faire. Et ils ont fait ça, ils ont importé une population de jeunes pélicans fougueux qui allaient à la chasse. Et quand les autres ont vu que le poisson il se trouvait dans l'eau, en fait, il n'était pas sur la plage, il était dans l'eau, il fallait aller le chercher, et ils ont commencé à reprendre des bonnes habitudes. C'est bon de mettre devant nos yeux des bons exemples, parce que spirituellement, on peut se laisser encroûter à force de recevoir et de recevoir et de recevoir la parole, mais de jamais la diffuser, de jamais la mettre en pratique, de jamais se mettre au service du Seigneur dans ce qu'il nous demande de faire, on s'encroûte, on s'engraisse et on risque de mourir à un moment donné. Si notre vie spirituelle ne dépend que du pasteur, par exemple, on risque de mourir. Qui sait si demain une loi ne sera pas prononcée en disant « tous les pasteurs doivent être bannis de France ». Moi, j'exagère un petit peu, mais qui sait ? Est-ce que je vais abandonner la foi pour ça ? J'espère que non, parce que ma foi, elle est pas dans le pasteur, elle est dans Dieu. Elle est dans sa parole. Et personne ne pourra m'empêcher de méditer la parole du Seigneur. Personne ne pourra m'empêcher de prier, de tourner mon cœur vers le Seigneur. Personne ne pourra m'empêcher, même si c'est un temps de persécution qui va arriver sur la France, peu importe, personne ne pourra m'empêcher de servir mon Seigneur. Bien sûr que le service ne sera pas tout à fait pareil que quand il y a la liberté, mais je veux suivre l'exemple de Jésus. Jésus a dit, à un moment donné, Satan était en train de le tenter, et il lui disait, prosterne-toi devant moi. Et vous savez ce que Jésus a répondu ? Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le seul service que l'on a le droit de vivre et de faire, c'est pour Dieu. Tout le reste, c'est optionnel. C'est important ce que je dis, hein. Tout le reste est optionnel. Ça ne veut pas dire que je laisse tout de côté, je le répète, mais la priorité des priorités, c'est le service pour le Seigneur. Et si les choses que je fais dans ma vie m'empêchent de mettre ma vie au service de Dieu, c'est qu'il y a un problème d'équilibre dans ma vie. Et j'ai besoin de me mettre à genoux et de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, que je vois les choses comme toi tu les vois. Parce que toi tu as dit face à la tentation, pourtant le diable lui présentait un raccourci, il allait avoir toute la gloire, il allait avoir tous les honneurs, Jésus les aura un jour les honneurs de cette terre. Mais il fallait qu'il passe par la croix d'abord. Et c'était pas évident de passer par la croix. Mais il savait que c'était le plan de bénédiction pour nous. Je suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Et pour donner ma vie en rançon. Si Dieu nous appelle à offrir notre vie en sacrifice, que ferons-nous ? Je ne parle pas en sacrifice jusqu'à la mort, mais un sacrifice vivant. Quelqu'un qui choisit de dire jour après jour, Seigneur, je veux t'obéir. Eh bien, je veux lui dire oui, Seigneur. Je veux lui dire oui. Sers-toi de moi. Peut-être quelqu'un dira, oh, moi, je ne crois pas en Dieu. Je crois que Dieu, c'est une création de l'homme. On a vu un film récemment qui montrait un philosophe qui avait ce genre de pensée que Dieu c'était pour les faibles, Dieu c'est pour ceux qui n'ont pas d'espérance dans d'autres choses, qui n'arrivent pas à s'en sortir par eux-mêmes. Et ça peut arriver qu'on rencontre ce genre de discussion. Mais c'est pas parce que je ne crois pas à Dieu ou que je ne crois pas au diable que je ne suis pas esclave quand même. La Bible me dit, c'est Jésus qui le dit encore une fois, à des gens qui disaient « nous on n'a jamais été esclaves ». On est des enfants d'Abraham, on n'a jamais été esclaves. Pourtant, si on regarde le contexte, franchement, ils n'étaient pas hyper libres, hein, parce que c'était les Romains qui avaient l'emprise sur le royaume d'Israël. Et puis, quand on fait l'histoire depuis Abraham jusqu'à leur jour à eux, les pharisiens, il y a eu quelques temps d'esclavage, des centaines d'années d'esclavage quand même. Et ils disent, on n'a jamais été esclaves. Bon, c'est une façon de voir. Mais Jésus, il va plus loin encore que ça. Jésus leur dit... Quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est pas parce que je crois en Dieu ou que je crois pas en Dieu que je suis libre. Non, parce que dès l'instant où je suis esclave du péché, dès l'instant où il y a quelque chose qui me domine, j'en suis un esclave. Et le choix, ce n'est pas de dire, moi je veux être vraiment libre, je veux aucun maître, parce que ça c'est pas possible. Le choix, c'est de dire, quel maître je veux vraiment servir. Si je ne fais pas le choix, il y en a un qui le fait pour nous, et c'est le mauvais choix. C'est l'ennemi de nos âmes qui veut dire, je vais bien laisser tranquille cette personne. Comme ça, il va vivre sa vie sans se mettre au service de Dieu. Mais par contre, il sera mon esclave. Sans s'en rendre compte. Le plus grand danger, c'est quand on est esclave du diable sans s'en rendre compte. Alors parce que là, tout nous sourit, tout va bien dans notre vie. Il n'y a pas beaucoup de problèmes, il n'y a pas beaucoup d'épreuves. Mais le résultat, c'est la mort éternelle. Est-ce que c'est ce que nous voulons vivre ? Loin de nous la pensée. Mais nous voulons mettre notre vie... au service du Seigneur. Et Jésus va rajouter cette parole que vous connaissez. Si le Fils vous libère, si le Fils vous affranchit, alors vous allez être vraiment libre. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. La seule liberté dans ce monde, c'est pas de dire il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. La vraie liberté, c'est de dire Seigneur, domine sur ma vie. C'est ça la vraie liberté. Parce que quand Dieu domine sur ma vie, il n'y a pas de meilleur maître, il n'y a pas de meilleur patron que notre Seigneur. Il est celui qui prend soin de nous. Nul ne peut servir de maître. Vous connaissez aussi ces passages. Juste avant, Jésus va dire ça. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Je ne peux pas m'en partager mon service entre Dieu et le monde. Seigneur, tu vois, je t'aime, mais j'aime les cantiques, j'aime les prières, j'aime écouter des prédications. Seigneur, mais j'aime bien aussi boire un petit coup, j'aime bien aussi regarder certaines choses à la télévision, j'aime bien aussi ceci ou cela. À un moment donné, il faut choisir. Ce que nous décidons dans le secret de nos vies détermine la bénédiction de Dieu ou non sur notre vie. À un moment donné, il faut se placer comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je veux servir l'Éternel. Parce que c'est ce qu'il me demande, parce que c'est l'exemple que Jésus montre, parce que c'est un moyen de s'épanouir. On entend aujourd'hui partout, on voit sur Internet toutes sortes de sites, de personnes qui parlent d'épanouissement personnel, de développement de soi, d'accomplissement de soi, de recherche de bien-être. On voit fleurir toutes sortes de coachs du bonheur, coachs de vie, coachs de joie de vivre, et etc., etc. Plein de coachs partout. Il y a des choses intéressantes qui sont dites, attention, hein. D'ailleurs, j'ai remarqué, j'avais regardé une fois ce que disait un coach, j'aurais remarqué qu'on pouvait quasiment coller à chaque fois un proverbe associé à tout ce qu'il est en train de raconter. Il y en a qui disent des choses intéressantes, des leçons de bon sens, mais dans les proverbes, on trouve la même chose. Mais il y a aussi des charlatans qui essayent de prendre les sous, hein. Ça, c'est comme partout. Mais la grande erreur que j'ai remarquée de beaucoup de coachs du bonheur et coachs de ce que vous voulez, c'est de focaliser l'épanouissement personnel sur soi. Bien sûr que la parole de Dieu nous dit qu'il faut s'aimer soi-même, mais elle associe tout de suite à aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si je mets plus l'accent sur m'aimer moi, eh bien je passe à côté de l'épanouissement personnel que Dieu a prévu. Qui c'est qui est le mieux placé pour dire à l'homme de quelle manière il va pouvoir s'épanouir personnellement ? Est-ce que c'est des êtres humains qui sont eux-mêmes concernés par la question? Ou est-ce que c'est Dieu qui a créé l'être humain? Qui a donné le mode d'emploi? Comment ça fonctionne un être humain? Vous avez tout qui est marqué là. Comment ça fonctionne? L'intérieur de l'être humain, pas le corps, mais le cœur. Et Dieu est le mieux placé pour nous dire comment ça se passe pour nous. La Bible nous montre que le vrai épanouissement, il est à trois niveaux. D'abord c'est Dieu, le prochain et moi-même. Parce que nous avons été créés pour quelque chose. Si j'utilise mon téléphone portable pour planter un clou, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être réussir à planter un petit peu le clou, mais je risque de casser mon téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été fait pour ça. Et pourquoi est-ce que l'homme a été fait? Tiens, c'est une bonne question ça. Regardez Éphésiens chapitre 3 verset 11, il y a la réponse. Si vous lisez tout le chapitre, Éphésiens chapitre 1 verset 11, si vous lisez tout le chapitre, vous verrez qu'il y a trois fois c'est répété la même expression. Et qui nous explique pourquoi est-ce que nous avons été créés. Et puis, il questionne la sagesse de Dieu, on a été prédestinés avant le fondement de la terre. C'est des choses qui nous dépassent. Éphésiens, chapitre 1, verset 11. « En Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. » D'après le conseil de sa volonté, pourquoi? Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Vous vous demandez quelle est votre raison de vivre? Je vous l'ai dit, selon la parole de Dieu, nous servons à la louange de la gloire de Dieu. Point final. Et si je passe ma vie à faire des choses que pour moi, ça ne va pas servir à la louange de la gloire de Dieu. Si je suis focalisé sur les choses que le monde propose, ça va pas servir à la gloire de Dieu. Si je suis focalisé sur Dieu, alors son amour infini va remplir mon cœur, je vais aimer mon prochain et je vais m'aimer moi-même aussi. Je vais pouvoir m'épanouir dans cette réalité-là. Combien on a besoin de mettre notre vie entre les mains du Seigneur et de dire « Seigneur, fais ce que tu veux ». Il y avait un philosophe espagnol qui venait du côté de Ségovie. Je ne sais pas si vous connaissez la ville de Ségovie. Mais il a donné l'image de l'aqueduc qui traverse la ville de Ségovie. C'est un grand aqueduc romain, il fait 15 km de long, 28 mètres de haut, et il a été construit à peu près au 1er siècle après Jésus-Christ. Et pendant 1800 ans, il a transporté de l'eau, des montagnes, de l'eau fraîche vers la ville qui était assoiffée, qui avait besoin d'eau, et donc c'était le moyen que l'eau vienne jusque dans la ville. Pendant 60 générations, les hommes ont bu de cette eau-là. Et tout se passait bien. Et puis le philosophe raconte qu'une génération qui avait une pensée moderne a commencé à dire « Cet aqueduc, c'est un monument historique, c'est une merveille, il faut la préserver. Donc on va arrêter de l'utiliser pour l'eau. On va mettre des belles canalisations toutes neuves en ferraille et on va laisser reposer cet aqueduc. » Et ils ont fait ainsi. Et donc ils ont fait tout un programme touristique pour que les gens viennent voir l'aqueduc. Et le résultat, c'est que l'aqueduc, à force du soleil qui tapait sur ces briques anciennes et vieilles qui avaient l'habitude d'être mouillées, ben, elles ont commencé à s'effondrer petit à petit. Ce qui fait que, avec urgence, ils ont dû faire des opérations de restauration. Jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont en train de faire les opérations de restauration parce que dès l'instant où l'aqueduc s'est arrêté d'être en service, il a commencé à se dégrader. Ce que des centaines de siècles n'ont pas pu faire, détruire, la paresse, on pourrait dire ça comme ça, a fait en quelques instants. Et c'est une belle image, je trouve, de nos vies qui disent « Moi, j'ai pas besoin de servir Dieu. Le salut, c'est bien, mais je veux pas de servir Dieu. J'ai d'autres choses à faire sur la terre. Je veux profiter. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. J'ai des voyages, j'ai des machins, j'ai des ceci, j'ai des cela. » Et Dieu n'est pas contre tout ça, mais quand ça prend la place de Dieu, on est en danger. Que même notre vie soit détruite. On est en danger que les pierres de notre cœur s'écroulent. Mais si nous servons le Seigneur, si nous sommes fidèles, si nous confions notre vie entre les mains du Seigneur, alors il va manifester sa présence. Je me souviens de ce témoignage que je lisais récemment. C'était un homme qui était cuisinier dans un hôtel à Villefranche de Rouergue. Et cet homme, il travaillait très fort et il permettait de subvenir à la famille, aux besoins de la famille. Et puis à un moment donné, il sentait qu'il avait des faiblesses. Il sentait que ça allait pas. Il sentait son cœur battre particulièrement fort. Puis il a fait des analyses et en fait, il avait un grave problème cardiaque. Grave problème cardiaque. Et il a été obligé de quitter son travail. Il pouvait plus soutenir la tension du travail. Et il s'est arrêté de travailler. Sa femme a dû trouver vite fait un emploi parce que son mari était incapable de reprendre un quelconque travail. Elle a trouvé un emploi pour vendre dans les kiosques. À l'époque, vous aviez les kiosques. Ça n'existe plus trop, ça. Mais elle vendait toutes sortes de revues. Et ça permettait, avec peine, de subvenir aux besoins de la famille. Et puis, leur fille a entendu parler de l'évangile. Elle a amené ses parents à Toulouse dans une salle où l'évangile était annoncé. Et les parents ont accepté de venir, tout simplement. Ils ont entendu l'évangile, ils ont entendu le beau message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et leur cœur a vraiment été touché. Et ils étaient venus, c'est vrai, au début pour être guéris. Si le mari était venu pour être guéri. Mais à l'écoute de ce message, ils ont dit, nous Seigneur, on veut mettre notre vie à ton service. On veut aller plus loin avec toi. Et ils ont commencé à lire la Bible, ils ont commencé à faire des progrès avec Dieu, ils ont commencé à avancer, et d'un point de vue physique, rien n'avançait dans leur vie. Mais spirituellement, par contre, il y avait de grands progrès. Et puis, un soir, une nuit, le monsieur, il a été réveillé parce qu'il a fait une crise dans son cœur, une arythmie qui était là, et il a eu une douleur intense, mais en même temps, il a eu une parole du Seigneur qui lui disait « c'est la dernière fois ». Ça fait du bien des fois, hein, quand on entend une parole comme ça. Et puis, le lendemain, sa femme, en allant travailler, elle a été reprise dans son cœur. Parce que des fois, elle vendait des journaux qui n'étaient pas très recommandables. Et c'était son travail. Mais Dieu lui a montré qu'il fallait qu'elle arrête ça. Ces personnes, tout jeunes dans la foi, d'un certain âge, ils ont dit, Seigneur, on veut mettre ta parole en premier dans notre vie. Alors, ils ont dit, on ne sait pas comment on va faire, mais l'épouse va arrêter de travailler dans ce kiosque. Seigneur, on s'en remet à toi. Vous imaginez, il y avait une famille, des enfants derrière, et pourtant, ils ont choisi de faire ce pas de foi. Et en peu de temps, le monsieur a été totalement guéri. Parce que Dieu a vu la foi de ces personnes. Et ce monsieur a retrouvé des forces, et ce monsieur a retrouvé un emploi, et il a pu à nouveau amener les sous pour le foyer. Parce que ils ont mis le service de Dieu en premier dans leur vie. Ça vaut la peine de se confier dans le Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, dira Jésus. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous voulez être là où Jésus est ? Je peux vous dire que c'est un bon endroit. C'est l'endroit de grâce et de bénédiction. D'ailleurs, Jésus le dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. On est content quand on reçoit des honneurs. Mais je peux vous dire que ça n'a rien à voir quand on reçoit les honneurs du Père. Il n'y a rien de comparable sur la terre. On peut même recevoir, et c'est souvent le cas, les honneurs du Père quand on reçoit les insultes des gens. Mais c'est pas grave, parce que quand on reçoit l'honneur du Père, on sait qu'il y a un Dieu de grâce et de bénédiction qui nous accompagne. On sait qu'on est né, qu'on est créé pour servir la gloire du Seigneur, et c'est ce que l'on veut faire. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services pour les saints. C'est le boomerang. Vous connaissez l'effet boomerang? Quand vous faites quelque chose pour le service de Dieu et pour les gens, ça va vous revenir en bénédiction. C'est la promesse de Dieu, c'est pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui nous le dit au travers de sa parole. Et combien c'est bon de recevoir des promesses comme cela et de dire, Seigneur, même si j'ai pas envie, même si ça m'est difficile, je veux rendre service, je veux te servir à toi, je veux faire ce que tu me demandes et je crois que tu vas manifester ta grâce. Un dernier verset qui nous dit ceci, 1 Pierre 4, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous avez reçu des dons? Je ne parle pas d'argent, hein. Des dons, des grâces, des qualités que vous avez. Mais le Seigneur vous dit, mais mettez-le au service des autres. Comme de bons dispensateurs, de bons gestionnaires. Un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui utilise bien ce qu'il a entre les mains. Peut-être que votre don, c'est votre famille, tout simplement. Mais utilisez bien votre famille. Soyez une bénédiction pour votre famille. Peut-être votre don, c'est votre travail. Peu importe, il y a toutes sortes de grâces que le Seigneur nous permet d'avoir, mais que chacun de vous, il n'est pas dit que quelques-uns qu'ils ont envie, parce que ça leur plaît, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il y en a qui l'ont fait de manière très pratique en venant nous aider à reconfectionner, restaurer les pièces derrière. Et c'est ça, mettre au service des autres le don que l'on a reçu. Vous pouvez aller voir les pièces, si vous n'avez pas vu la nursery et le bureau, vous allez voir qu'il y en a qui ont vraiment un don. Et on est heureux de les avoir au milieu de nous, parce que le Seigneur, il sait exactement comment faire les choses. Si c'était moi qui avais peint, ça serait un autre résultat. Donc Dieu a pitié, vous voyez. Mais je bénis le Seigneur, parce que c'est de cette manière-là qu'il nous permet de nous épanouir. Le vrai épanouissement, ce n'est pas de faire tout ce qu'on a envie de faire, ce n'est pas de se sentir bien dans son corps, c'est de renoncer à nous-mêmes pour faire ce que Dieu nous demande. C'est ça le vrai épanouissement, selon la parole de Dieu. Désolé si tous les coachs en bien-être, ils vont pas être d'accord avec moi, mais je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes sauvés pour servir. Quelqu'un a dit cette parole, un service qui ne coûte rien n'accomplit rien. Et je vous laisse méditer cette parole-là. Mais je voudrais terminer ce temps en vous invitant à fermer les yeux. Je vais demander à Michel et à Claude si tu veux bien, si vous voulez bien servir la Sainte-Seine. Merci. Je vous invite à prendre ce temps avec sérieux. Justement, la semaine prochaine, nous verrons que le service de Dieu, c'est d'abord quelque chose de très sérieux, de très solennel. Et on ne peut pas s'amuser avec les choses de Dieu. Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Et combien il est important de respecter, d'avoir le saint respect de la présence de Dieu. Mais ce matin, je voudrais simplement lancer cet appel. À l'image de ce que Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Ce matin, ce temps de Sainte-Seine, ce n'est pas seulement se souvenir de ce que Jésus a fait. Jésus a dit, je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon. Oui, le pain nous rappelle le corps brisé du Seigneur. Le vin nous rappelle le sang versé du Seigneur pour nous. Cette vie donnée en rançon pour chacun de nous, pour que nous soyons sauvés. Mais il est aussi venu pour servir. Comment est-ce que nous pouvons prendre le pain et le vin sans dire, Seigneur, je veux pas te servir après. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que je veux inviter vraiment ceux qui s'engagent, ceux qui se réengagent ce matin. Je Je vais vous inviter à vous lever. Ne vous levez pas si vous ne voulez pas vous réengager, en disant « Seigneur, je veux mettre ma vie à ton service. Je veux signer en bas de la page et que tu remplisses après ce que tu veux pour moi. » Ce matin, si vous vous levez, c'est que vous avez bien compris qu'on est devant Dieu et que Dieu nous appelle. Dieu nous sauve, mais Dieu veut se servir de nous aussi pour sa grâce. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Combien de promesses sont attachées à ceux qui le servent? Oui, c'est vrai qu'il y a du renoncement. Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés dans notre cœur. Il y a des combats. Mais combien de gloires et de bénédictions sont derrière? Seigneur éternel, je te prie dans ces instants de bénir tes enfants et de permettre, Seigneur, que nous puissions réaliser combien il est important que nos vies soient livrées entre tes mains. Que nous soyons, Seigneur, ces sacrifices vivants qui amènent la grâce, qui amènent la bénédiction. Que notre épanouissement ne repose pas sur nos sentiments à nous. Que notre épanouissement repose sur toi, sur ton honneur, sur ta parole, sur ta faveur, sur ta grâce, sur l'amour que nous portons aussi aux autres qui nous entourent. Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Et Seigneur, je te demande dans ces instants d'ouvrir les yeux de notre cœur. Tu vois celui qui ne sait pas quoi faire ce matin encore pour sa propre vie. Que ton esprit puisse lui donner la conviction dans son cœur. Tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui dirige. Tu es le Dieu qui envoie ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur éternel, oui, nous voulons prendre ce pain et ce vin en pleine connaissance de cause. Parce que nous savons en qui nous croyons. Nous croyons dans le Dieu vivant et vrai. Nous voulons abandonner les idoles. Nous voulons servir le Dieu vivant et vrai. Et nous voulons attendre Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais inviter tous ceux qui désirent répondre à cette prédication de manière concrète à vous lever et à prendre vraiment cette décision dans votre cœur. Seigneur, je veux te suivre. Amen.